accusé de saper l'indépendance des juges. Et puis, objectif, lutter contre la précarité énergétique. Le ministère de l'Économie a annoncé ce lundi l'ouverture prochaine d'un guichet en ligne destiné à recevoir les réclamations concernant le chèque énergie. Les ménages modestes n'ayant pas reçu cette aide distribuée depuis 2018 et qui estiment y être éligibles pourront désormais faire une demande sur un portail dédié qui sera ouvert de juillet à décembre, selon Bercy. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio qui vous veut du bien.
What's your thoughts about religion? Are you close to your mother? Tell me about your dream vacation and all of your ex-lovers. Tell me now, what's that look on your face? She puts her hand on my lips, begging please end this conversation. Talking, I go dead. Shut your mouth, give me your head.
Radio Public Santé, votre chronique sociale, Raphaël Delvolvé.
La sieste est souvent liée à la paresse. En France, elle est même souvent très mal perçue, notamment dans le milieu du travail. Pourtant, nombreuses études la considèrent comme nécessaire à la concentration de l'être humain, notamment après l'heure du déjeuner où l'organisme donne plusieurs signes de fatigue. Se reposer quelques minutes répare considérablement l'état de stress ou de somnolence souvent ressenti à ce moment de la journée. Faire un léger somme est alors fortement recommandé. Mais attention, une sieste n'est pas censée durer plus de 20 minutes. Ce laps de temps est suffisant pour récupérer de l'énergie et retrouver la forme. Il est recommandé de pratiquer une sieste dans une position de confort, presque allongée, avec la tête soutenue. Au sortir d'une sieste, votre cerveau a retrouvé sa vivacité et la plupart des signes de fatigue que vous ressentiez avant ont disparu. Vous vous sentez alors d'attaque pour la deuxième partie de la journée. À défaut de vous requinquer, la sieste en pleine journée vous aide aussi à réguler votre repos du soir, à savoir vous endormir plus facilement et à mieux calibrer les plages de sommeil. Les études démontrent que si elle est pratiquée régulièrement, elle peut vous faire gagner jusqu'à 2 heures de sommeil par jour. Sachez que certains pays comme la Chine consacrent même un article dans leur code du travail pour stipuler que les travailleurs ont le droit de faire la sieste. Dans d'autres, comme le Japon, la sieste est même parfois imposée aux employés.
Pour plus d'informations sur votre actualité santé, consultez le site internet de Radio Public Santé et abonnez-vous gratuitement à la newsletter de notre rédaction www.publicsante.com. We'll be right back.
saw the fire in your eyes.
Turbulents et victimes de problèmes de concentration, les enfants hyperactifs sont plus nombreux qu'on ne le pense. 3 à 5% des petits Français seraient concernés. Des chercheurs se sont donc intéressés à ces enfants qui donnent bien du fil à retordre à leurs parents. Ils ont réussi à mettre en évidence un taux sanguin de fer plus bas que la normale chez ces jeunes patients. 43 enfants âgés de 4 à 14 ans ont participé à cette étude pour laquelle les médecins ont réalisé un dosage de ferritine. Le résultat est sans appel. 84% des patients hyperactifs présentaient un taux de fer trop bas contre seulement 18% chez les patients témoins. Depuis cette découverte, la médecine cherche à savoir si un apport de fer pourrait améliorer l'état de santé de ces enfants hyperactifs. Des essais ont donc été mis en place.
C'est la radio qui vous veut du bien avec dans un bref instant le retour de vos chroniques santé et nous parlerons cette fois-ci de sexologie.
Unique, essentiel, irremplaçable. Grâce à toi, grâce à lui, je revis.
Le sang est un produit rare et précieux. Le don de sang est un acte généreux, solidaire et responsable qui permet chaque année de soigner 1 million de malades. Donnez votre sang.
C'était un message de l'établissement français du sang, www.dondusang.net.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio qui vous veut du bien.
Such a shame to believe in escape, a laugh on every face, that's a change
till I'm finally left with a mate. Tell me to relax, I just stare. Maybe I don't know if I should change a feeling that we share. It's a shame.
Nombre de personnes, vous avez peut-être vous aussi un petit problème de synchronisation au sein de votre couple. Il n'est pas rare en effet que nos envies diffèrent quelque peu selon le moment de la journée. Il est plutôt du matin, vous plutôt du soir, votre libido s'affole l'été alors que la sienne ne fait que s'effondrer. Rien de vraiment coordonné, pas facile de s'accorder quand on est deux. Et oui, même si c'est toujours un bon moment à passer, le sexe c'est parfois compliqué pour ne pas dire incompréhensible. Pas d'inquiétude, ces écarts entre vos désirs et les siens s'expliquent par un rythme particulier qui nous est donné par ce qu'on appelle l'horloge biologique. Et quand nos deux horloges n'indiquent pas la même heure, difficile de ne pas souffrir du décalage horaire. Il existe différents biorhythmes qui donnent la cadence à nos performances physiques et intellectuelles. Certains sont également responsables de nos désirs et de nos envies. Et bien sûr, la sexualité n'y échappe pas. Généralement, il existe un moment de la journée où les désirs féminins et masculins se synchronisent plutôt bien. C'est la période de 17 à 19 heures. En fait, beaucoup de spécialistes estiment que c'est à ce moment-là que nos performances physiques sont à leur maximum. D'ailleurs, beaucoup de sportifs vous le diront, l'effort du soir est souvent moins insurmontable que le footing du matin. Et pourtant, niveau sexualité, ce n'est pas le créneau idéal. Le soir de 5 à 7, il y a souvent les enfants à aller chercher à la sortie de l'école, les imprévus au bureau qui vous retiennent un peu plus longtemps que prévu, ou même les embouteillages pour ceux qui sont déjà sur le chemin du retour. À vous de voir si cela vaut la peine de poser des RTT le temps d'un essai. Mais attention messieurs, avant de vous emballer, sachez que l'horloge biologique de ces dames est bien plus complexe que la nôtre. Le désir féminin fluctue au gré du cycle mensuel. Et là, il n'y a pas vraiment de secret, pas de repère, puisque heureusement, chaque femme est différente. En règle générale, la période juste avant l'ovulation se traduit par un désir plus fort. Enfin, on pense souvent que chez les hommes, le calendrier n'a que très peu d'effet, contrairement aux femmes. Et pourtant, certains facteurs environnementaux, comme le soleil et la chaleur, peuvent doper notre libido. D'ailleurs, juillet et août restent la période préférée des fabricants de préservatifs, puisque les amours de vacances dopent leur vente. La faute peut-être aux tenues plus légères et suggestives qui s'offrent à nos yeux.
Pour plus d'informations sur votre actualité santé, consultez le site internet de Radio Public Santé, Radio Public Santé, et abonnez-vous gratuitement à la newsletter de notre rédaction. www.publicsante.com.
Magic in the air. Raphaël Delvolvé.
Enfin, une bonne nouvelle concernant la calvitie. Un groupe de recherche américano-britannique a peut-être trouvé la solution pour la soigner. Et ce, après plusieurs années de recherches infructueuses. Je dis bien peut-être, car de nombreux tests restent à réaliser pour prouver son efficacité sur le corps humain. Pour l'instant, les résultats n'ont été observés que sur des organismes primates, à savoir des souris de laboratoire. Cette expérience est en fait le fruit d'une étude réalisée à l'université de Columbia aux États-Unis. Il s'agissait de développer des cellules du derme papillaire provenant de 7 personnes différentes pour tenter de cloner ce que l'on appelle des follicules pileux. Plus clairement, le derme papillaire correspond à la couche superficielle de la peau, à l'intérieur de laquelle se développe le poil. Le poil se développe grâce aux follicules pileux créés par l'assemblage des cellules présentes dans le derme papillaire. Il fallait donc extraire des cellules humaines pour les faire se reproduire in vitro et ensuite les réimplanter sur des souris. Les résultats se sont alors révélés très concluants puisque des cheveux se sont alors mis à pousser sur le dos des primates. On a donc réussi à faire repousser des cheveux. Cette avancée pourrait en réjouir plus d'un, bien qu'il faille encore réaliser l'expérience sur des corps humains. On a tout de même toutes les chances d'y croire puisque les organismes primates sont très proches de ceux de l'homme. Cela pourrait alors réjouir bon nombre d'hommes mais aussi de femmes qui souffrent énormément de ce phénomène. Car perdre ses cheveux, ça n'est pas seulement un changement physique. Cela engendre aussi de graves conséquences sur la psychologie humaine. Aux États-Unis, pays dans lequel on trouve le plus de chauves, on en compterait près de 35 millions. Si cette étude trouve une issue favorable, ce qui n'est pas encore le cas, la problématique de la perte de cheveux pourrait bien disparaître du commun des mortels. C'est une nouvelle qui enchante, on pourrait même dire une nouvelle qui décoiffe.
Radio Public Santé.
La radio
100% santé.
A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda
thank you.
Guiraud.
Un sujet tabou dont sont pourtant victimes 10 millions de personnes en France, l'herpès n'a pas bonne réputation. L'herpès labial est le plus courant. Plus connu sous le nom de bouton de fièvre, c'est l'herpès du visage le plus fréquent. Mais l'herpès peut aussi toucher d'autres parties du visage, et notamment dans une forme plus sévère, les yeux. L'herpès génital, qui touche les parties sexuelles, est une maladie sexuellement transmissible. Et les crises récidivantes peuvent être à l'origine de douleurs et de stress. Il faut être prudent, car cette maladie est contagieuse. Le risque est plus important pendant les poussées, mais même en dehors, soyez vigilants. Et la transmission se fait plus rapidement que vous ne le croyez. Par contact direct, avec des lésions herpétiques ou des sécrétions contaminées, lors d'un rapport sexuel pour l'herpès génital, et par un simple baiser pour l'herpès labial. Sachez qu'une fois le virus dans l'organisme, celui-ci y est lié domicile à vie, mais grâce au traitement et à quelques règles simples d'hygiène, on peut apprendre à vivre avec et à anticiper les crises. Les signes d'une poussée d'herpès sont simples à reconnaître. Vous ressentez des picotements, des sensations de brûlure, d'engourdissement et de douleur. Ces signes sont suivis quelques heures ou quelques jours après par une rougeur, des petites cloques, puis des croûtes. La cicatrisation intervient au bout d'une dizaine de jours. Ces signes sont les mêmes pour tous, hommes et femmes. Il ne faut surtout pas attendre avant de consulter, car c'est au moment de la survenue des vésicules que le diagnostic est le plus facile. Il est difficile de poser le diagnostic d'herpès avec certitude quand il n'y a plus de symptômes entre les poussées. En tout cas, pas de panique. C'est une maladie qui se soigne, donc n'hésitez pas à consulter. De plus, se soigner permet de réduire le nombre de crises et de limiter la transmission du virus.
La radio qui vous veut du bien, avec dans un bref instant le retour de vos chroniques santé. Et nous parlons cette fois-ci de psychologie. A tout de suite.
Un euro. Pour vaincre l'autisme, vous n'allez pas donner qu'un euro. Bah non, c'est ridicule. Ça sert à rien, un euro. Comme si on allait financer la recherche contre l'autisme avec un euro. Mais c'est le grand don pour l'autisme. Avec votre euro, plus celui de votre voisin, plus celui d'un autre, on va la financer, la recherche pour l'autisme.
Ce sont les petits gestes qui font le grand don. Faites un geste sur vaincrelautisme.org.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio qui vous veut du bien.
To keep my hands on myself.
Six.
parole, Kouad Saliou.
Le travail vous oppresse et le quotidien devient pesant. Vous avez peut-être tout simplement besoin de vous relaxer, mais vous n'en prenez pas le temps. Il n'est pas toujours nécessaire de se rendre dans des salles de yoga ou à des cours de relaxation. Quelques exercices simples, basés sur la respiration, peuvent suffire à vous apaiser jour après jour. En effet, la relaxation est essentielle pour un bon développement personnel et intérieur. Elle permet tout d'abord de se reposer et de récupérer, mais aussi et surtout de prendre du recul, d'avoir plus d'efficacité physique et de disponibilité mentale. La respiration a donc pour objectif d'établir une sorte d'harmonie entre le corps et l'esprit. Tout d'abord, le fait de bâiller en toute liberté peut procurer un véritable bien-être. Bâiller oxygène le corps et les cellules de notre cerveau. Le bâillement engendre donc un renouveau constant en nous. Un autre exercice très agréable consiste à s'installer confortablement et respirer profondément. Il suffit ensuite de s'installer le dos bien droit et de fermer les paupières pour accéder à la détente. Prenez petit à petit conscience de votre front en train de se relaxer, tout en passant votre main sur le cuir chevelu. Respirez bien en rythme et de manière constante par le ventre, tout en sentant chaque partie de votre corps se détendre, comme le visage, les jambes, les bras ou encore la nuque. À partir de ce moment, vous avez tout bonnement une impression de légèreté et de flottement. Enfin, vous pouvez également faire travailler votre imagination et visualiser l'air qui sort de votre corps lors de l'expiration. Associez-le à quelque chose de négatif et à toutes vos idées noires. Au contraire, lors de l'inspiration, imaginez quelque chose de très positif, de calme, de doux et de nouveau. Faites cela à peu près une dizaine de fois et vous vous sentirez une nouvelle personne prête à affronter tous les petits tracas du quotidien. Ces exercices sont très simples et agréables à effectuer. Ils vous assureront une détente maximale.
Radio Public Santé.
La radio
100% santé.
Démangeaisons, irritations, picotements ininterrompus, tout ce qui conduit au besoin de se gratter, méfiez-vous, ce n'est pas forcément une réaction allergique. Cela peut être du prurit chronique, une sensation hyper désagréable sur la peau, souvent permanente, qui conduit au besoin incontrôlable de se gratter. Le responsable de ces démangeaisons, c'est l'histamine, une molécule chimique qui, lorsqu'elle est libérée, se lie à des récepteurs nerveux de la peau et provoque le prurit. Les symptômes sont simples, le fait de se gratter ne calme pas les picotements, ou alors que très passagèrement. Ça risque même de l'aggraver. Dans certains cas, les démangeaisons peuvent s'accompagner d'une éruption cutanée, de rougeur ou de gonflement. Le prurit, c'est aujourd'hui l'enfer pour les patients, mais aussi pour les allergologues, et aujourd'hui près de 30% de la population concernée passerait environ 2 heures par jour à se gratter. Les causes du prurit sont nombreuses, urticaire, eczéma, psoriasis, mycose ou encore piqûres d'animaux ou de végétaux, comme avec des méduses, insectes, orties ou encore puces. Les démangeaisons sont le signe de nombreuses maladies, alors n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin ou pharmacien, surtout si elles sont intenses et persistantes. Dans un premier temps, si vous avez la peau sèche, évitez les bains prolongés, surtout avec des savons agressifs. Limitez l'emploi de produits parfumés, préférez les crèmes hydratantes qui sont un bon moyen pour soulager les zones de la peau qui démangent. Enfin, évitez de vous gratter, surtout si le prurit s'accompagne de boutons, car le grattage prolonge et aggrave la réaction locale. De plus, vous pourriez garder des cicatrices. Dans le cas inverse, si l'envie de se gratter est irrésistible, frottez la partie qui démange avec la paume de la main et gardez les ongles courts.
Radio Public Santé, c'est toutes les 6 minutes.
6 minutes.
Un point sur votre actualité santé. Radio Public Santé.
La radio.
La radio qui vous veut du bien.
J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau. C'est ainsi par ici. Choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant, que ces doux appellas, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes dents d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Donne
à toutes, c'est Karine Ferry. Aujourd'hui, ce n'est pas l'animatrice, c'est la femme qui vous parle. Beaucoup d'entre nous n'ont pas l'habitude de faire un frottis régulièrement. Pourtant, faire un frottis tous les 3 ans à partir de 25 ans, ça permet de détecter des lésions à temps pour éviter qu'elles se transforment en cancer du col de l'utérus. Alors, qu'est-ce qu'on attend ?
Contre le cancer du col de l'utérus, tous les 3 ans, un frottis, vous avez tout compris. Parlez-en à un médecin ou à une sage-femme. C'était un message du ministère chargé de la Santé et de l'Institut National du Cancer.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio qui vous veut du bien.
Stevia, voici des produits que vous connaissez sûrement très bien. Ils font partie de la famille des édulcorants. Un édulcorant, c'est un additif qui est utilisé pour donner une saveur sucrée aux aliments et aux boissons. Il a 3 caractéristiques. Son goût sucré est plus intense que le sucre, il n'apporte pas de calories et il protège nos dents car il ne provoque pas de caries. Comme ils ont un goût sucré puissant, les édulcorants sont utilisés en petites quantités. Par exemple, on obtient le même goût en remplaçant 600 g de sucre par seulement 1 g de sucralose. Si on compare dans des produits, on a 140 calories dans une canette de soda classique et juste une calorie dans une canette light. Vous avez dû remarquer que ces édulcorants font souvent l'objet de rumeurs. Pourtant, ils sont soumis à une procédure très stricte. Un édulcorant peut être commercialisé en Europe seulement s'il y a suffisamment d'études qui prouvent qu'il peut être consommé par tous, y compris les enfants et les femmes enceintes. Les études doivent bien sûr vérifier que l'édulcorant ne provoque pas de maladies graves, comme le cancer. Il faut donc plusieurs années pour réaliser toutes ces recherches. L'aspartame, par exemple, a été découvert dans les années 60, puis il a été autorisé en Europe dans les années 80, après avoir réussi tous les tests de sécurité. D'ailleurs, quand l'Union européenne donne son autorisation pour un édulcorant, elle définit une dose de sécurité. Cette dose est la quantité qui peut être consommée chaque jour, pendant toute notre vie, sans risque pour notre santé. Par exemple, pour l'aspartame, la dose qui a été fixée représente, pour une femme de poids moyen, une consommation quotidienne de 20 canettes de boissons light ou de 280 sucrètes, qu'on peut mettre dans une boisson chaude par exemple. Des quantités qui sont bien sûr impossibles à consommer. Lorsque les premiers édulcorants ont été découverts, ils se sont révélés très utiles pour les personnes diabétiques, qui en restent aujourd'hui les plus gros amateurs. Car les édulcorants permettent aux diabétiques qui aiment le goût sucré de garder ce plaisir dans leur alimentation, sans leur apporter de calories, sans leur apporter de sucre dans le sang et sans impacter leur sécrétion d'insuline, l'hormone qui est justement perturbée en cas de diabète. Désormais, en plus des diabétiques, de nombreuses personnes consomment des édulcorants pour mieux contrôler leur apport calorique. Bien sûr, les édulcorants ne sont pas des ingrédients magiques pour perdre du poids. Mais ils ne font pas grossir, c'est déjà ça. Et ils peuvent aider à conserver le plaisir du goût sucré pendant un régime. De récentes études ont même montré qu'ils peuvent accélérer la perte de poids. En tout cas, les personnes qui consomment des édulcorants ne sont pas de plus gros consommateurs de produits sucrés que les autres. Contrairement à ce que certains pensent, il n'existe pas d'addiction alimentaire. Notamment, l'addiction au sucre, ça n'existe pas. Et l'Agence française de sécurité des aliments a confirmé que la consommation des édulcorants ne peut pas rendre accro au goût sucré. 10 édulcorants sont actuellement autorisés en Europe. Les plus connus sont l'aspartame, l'acésulfame, le sucralose et les glycosides de stéviol. Ce nom un peu barbare désigne en fait l'édulcorant qui est extrait d'une plante qui a naturellement un goût sucré et dont vous avez dû entendre parler, la stévia.
Vous écoutez Radio Public Santé, la radio
qui vous veut du bien.
C'est sur le www.publicsante.com.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It's a one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care.
votre chronique sociale. Christian Gray.
Absorption accidentelle par les enfants, erreur de posologie ou tentative de suicide, les intoxications médicamenteuses nécessitent une intervention extrêmement rapide. Leurs conséquences dépendent du type et de la quantité de médicaments ingérés, du délai d'intervention, mais également de l'âge de la personne, de son état de santé et de la prise éventuelle d'alcool qui a l'inconvénient d'accentuer l'action du médicament. En cas d'intoxication médicamenteuse, ayez les bons réflexes. Si la personne est inconsciente, placez-la en position latérale de sécurité afin d'éviter les risques d'asphyxie. Couchez sur le côté, de préférence à gauche, tête en arrière, afin de faciliter la ventilation. Ôtez tout ce qui pourrait gêner la respiration, ceinture, cravate, dentier et autres. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquez le bouche-à-bouche et le massage cardiaque. Si la personne est consciente, asseyez-la ou couchez-la sur le côté et surveillez-la en permanence. Dans tous les cas, recherchez les médicaments incriminés ou toute autre trace de médicaments, boîtes, blisters, etc. Appelez le centre antipoison de votre région ou le SAMU, faites le 15 ou le 112. Selon la gravité, une équipe sera envoyée sur les lieux. Le centre antipoison est à même de donner des conseils en fonction des médicaments absorbés. Et surtout, surtout, ne donnez rien à boire, ni eau, ni lait. Ne cherchez pas non plus à faire vomir la victime, car vous risqueriez d'aggraver davantage la situation. Idéalement, il faudrait toujours avoir sur soi, dans son portefeuille par exemple, à proximité du téléphone ou encore enregistré sur le répertoire de son mobile, le numéro de téléphone du centre antipoison de votre région. Notez-le dès maintenant en consultant le site internet de l'association des centres antipoison et de toxicovigilance www.centre-antipoison.net. Attention, toute intoxication médicamenteuse, même bénigne, nécessite une consultation médicale et une surveillance de plusieurs jours.
C'était votre chronique sociale. Réécoutez cette chronique sur internet. www.publicsanté.com.
Way up high.
sur l'actualité nationale et internationale avec la rédaction de Ripley News. Morgan Ribot.
Bonjour à tous, un petit billet pour la Chine. Ça vous dit, le président chinois Xi Jinping annonce en tous les cas la prolongation pour un an jusqu'à la fin 2025 de l'exemption de visa touristique court pour les Français désireux de se rendre dans le pays asiatique. Le dirigeant chinois a fait cette annonce hier à Paris, au premier jour de sa visite d'État en France de deux jours, lors d'une conférence de presse conjointe avec Emmanuel Macron. La menace plane depuis des mois.